Chapitre 2. Le lendemain, elle arriva au palais des Sabini, le cœur palpitant sous un bouquet de violettes. Déjà, André l'attendait à la porte de la salle. En lui serrant la main, il lui dit « Merci ». Il la conduisit à un fauteuil et se plaça près d'elle. Il lui dit « Je croyais que l'attente me ferait mourir d'angoisse. J'avais si peur que vous ne vinssiez pas. Comme je vous suis reconnaissant !» Il lui dit « Hier, très tard, j'ai passé devant votre maison. J'ai vu de la lumière à une de vos fenêtres, à la troisième fenêtre vers le Quirinal. Je ne sais ce que j'aurais donné pour être certain que vous étiez là. » Il lui demanda encore « Qui vous a donné ces violettes ?»«
C'est Delphine, » répondit-elle.
« Delphine, vous a-t-elle raconté notre rencontre de ce matin sur la place d'Espagne ?»«
Oui, tout. »
Le concert commença par un quartet de Mendelssohn. La salle était déjà presque entièrement occupée. L'auditoire se composait en grande partie de dames étrangères, et c'était un auditoire de femmes blondes, pleines de modestie dans le costume, pleines de recueillement dans les attitudes, silencieuses et religieuses comme en un lieu sacré. L'onde de la musique, passant sur des têtes immobiles coiffées de chapeaux sombres, se dilatait dans une lumière d'or, dans une lumière qui coulait d'en haut, tamisée par les rideaux jaunes, éclaircie par les parois blanches et nues. Et la vieille salle sans ornement, cette salle où, sur la blancheur uniforme, restaient à peine quelques traces de frise, et où les pauvres portières bleuâtres menaçaient de tomber, cette salle avait l'apparence d'un lieu qui, resté clos pendant un siècle, aurait été rouvert justement ce jour-là. Mais cette teinte de vieillesse, cet air de pauvreté, cette nudité des parois, ajoutaient je ne sais quelle étrange saveur à la jouissance exquise de l'audition, et en raison du contraste, cette jouissance y paraissait plus intime, plus profonde, plus pure. C'était le mercredi 2 février, à Montecitorio, le Parlement discutait sur le massacre de Dogali. Les rues et les places voisines regorgeaient de peuple et de soldats. Les souvenirs musicaux de Skifanoia remontèrent à l'esprit des deux amants. Un reflet de cet automne illumina leurs pensées. Le menuet de Mendelssohn évoquait pour eux la vision de la villa au bord de la mer, des salons embaumés par les jardins en pente, du vestibule où se dressaient entre les colonnes les hautes cimes des cyprès et où les voiles de feu se détachaient sur une zone de mer sereine. De temps à autre, André, se penchant un peu vers la siennoise, lui demandait tout bas « À quoi pensez-vous ? » Elle répondait par un sourire si faible qu'à peine parvenait-il à le surprendre. Elle dit « Vous vous rappelez le 23 septembre ?» André n'avait pas ce souvenir bien distinct dans la mémoire. Néanmoins, de la tête, il fit signe que oui. L'andante, calme et solennelle, dominée par une haute mélodie pathétique, avait abouti, après de larges développements, à une explosion de douleur. Le finale s'attardait en un rythme monotone, plein de lassitude. Elle dit « C'est le tour de votre bar !» Et quand la musique recommença, ils éprouvèrent tous deux un besoin instinctif de se rapprocher. Leurs coudes s'effleuraient. À la fin de chaque morceau, André se penchait vers elle pour lire sur le programme déployé qu'elle tenait à la main. Et dans ce geste, il lui pressait le bras, respirait l'odeur de ses violettes, lui communiquait un frisson de délice. L'adagio avait un chant de si puissant essor, il prenait une telle envolée vers les sommets de l'extase et s'élargissait vers l'infini avec tant d'assurance qu'il parut être la voix d'une créature surhumaine qui épancherait dans le rythme la joie d'une immortelle victoire. Le torrent irrésistible emportait tous les esprits. Quand la musique eut cessé, le frisson des instruments persista quelques secondes encore dans les nerfs des auditeurs. Un murmure courut d'un bout à l'autre de la salle. Retardés, les applaudissements éclatèrent avec plus de véhémence. Ils se regardèrent l'un l'autre, les yeux chargés de rêves. La musique continuait. La lumière se faisait plus discrète. Une tiédeur délicieuse adoucissait l'air. Les violettes attiédies exhalaient un parfum plus fort. André avait presque l'illusion d'être seul avec elle parce qu'il ne voyait autour de lui personne qu'il connût. Il se trompait. S'étant retourné pendant une pause, il aperçut Hélène Mouti debout au fond de la salle en compagnie de la princesse de Ferentino. Immédiatement, leurs regards se rencontrèrent. Il la salua de loin, et il lui sembla qu'il surprenait sur les lèvres d'Hélène un sourire singulier. « Qui saluez-vous ? » demanda Marie en se retournant à son tour. « Qui sont ces dames ?»« Lady Hetfield et la princesse de Ferentino. » Elle crut sentir un trouble dans la voix d'André. « Laquelle des deux est la princesse de Ferentino ?»«
La blonde. »
« L'autre est très belle. » André se tut. « Mais est-ce une Anglaise ? » demanda-t-elle encore. « Non, c'est une Romaine. Elle est veuve du duc de Skerny et mariée en seconde noce à Lord Hetfield. » « Elle est très belle. » André s'empressa de s'informer. « Que va-t-on jouer maintenant ?» Le quatuor de Brahms en do mineur. « Vous le connaissez ?»«
Non. »
« La seconde partie est merveilleuse. » Il parlait pour cacher son inquiétude. « Quand vous reverrai-je »«
Je ne sais. »«
Demain ?» Elle hésita. Il semblait qu'une ombre légère lui fût descendue sur le visage. « Demain, s'il fait soleil, répondit-elle, je viendrai avec Delphine à la place d'Espagne vers midi. »«
Et s'il ne fait pas soleil ?»«
Samedi soir, j'irai chez la comtesse Sarnina. » La musique recommençait. La première partie exprimait un combat sombre et viril, plein de vigueur. Ensuite, la romance exprima un ressouvenir passionné mais très triste, suivi d'un relèvement lent, indécis et débile, vers une aube très lointaine. Une claire phrase mélodique se développait en profonde modulation. C'était un sentiment très différent de celui qui animait l'adagio de Bach. C'était plus humain, plus terrestre, plus élégiaque. Dans cette musique passait un souffle de Beethoven. André fut pris d'une anxiété si terrible qu'il craignit de se trahir. Toute la douceur d'auparavant se convertit pour lui en amertume. Il n'avait pas une conscience exacte de ce qu'était sa souffrance nouvelle, il ne savait ni se recueillir, ni se dominer. Il flottait, perdu, entre le charme de la musique et l'attraction exercée sur lui par les deux femmes, mais aucune de ces trois forces ne le pénétrait jusqu'au fond. Il éprouvait une sensation indéfinissable, comme celle d'un vide où auraient résonné sans cesse de grands coups suivis d'un écho douloureux. Et sa pensée se brisait en mille fragments, se désagrégeait, s'émiettait. Et les images des deux femmes se superposaient, se confondaient, se détruisaient l'une l'autre, sans qu'il lui fût possible d'arriver à les disjoindre, d'arriver à définir son sentiment pour l'une et son sentiment pour l'autre. Et par-dessus ce douloureux trouble intime, s'agitait l'inquiétude produite par la réalité immédiate, par le souci des expédients pratiques. Il avait surpris un changement léger dans l'attitude de Marie-Thérèse à son égard. Et il croyait sentir le regard d'Hélène, persistant et fixe. Et il ne réussissait pas à trouver la contenance qu'il devait prendre, il ne savait pas s'il devait accompagner Marie lorsqu'elle sortirait de la salle ou s'il devait s'approcher d'Hélène. Il ne savait pas non plus si cet incident lui serait favorable ou nuisible, près de l'une et près de l'autre. À la fin du morceau, Marie se leva.
« Je m'en vais, » dit-elle.
« Vous n'attendez pas la fin ?»«
Non, je dois être rentrée pour 5 heures. »«
Rappelez-vous, demain matin. » Elle lui tendit la main. C'était peut-être la chaleur de la salle close qui avivait sa pâleur d'une faible flamme. Un manteau de velours d'une sombre couleur de plomb, bordé d'une large garniture de chinchilla, enveloppait toute sa personne. Et dans l'entrebâillement de la fourrure cendrée, les violettes mouraient, exquises. En sortant, elle marchait avec une si souveraine élégance que plusieurs des dames assises se retournèrent pour la suivre des yeux. Et ce fut la première fois qu'André, dans cette créature spirituelle, dans cette pure Madone de Sienne, vit la femme du monde. C'était la troisième partie du quatuor. Déjà la lumière du jour décroissait et l'on releva des rideaux jaunes comme dans une église. D'autres dames quittèrent la salle. Des chuchotements bourdonnaient çà et là. Dans l'auditoire commençaient la fatigue et l'inattention qui marquent toujours la fin d'un concert. Par un de ces bizarres et brusques phénomènes d'élasticité morale et de versatilité, Ferrelli éprouva une sensation de soulagement presque gaie. Tout d'un coup, il oublia ses préoccupations sentimentales et passionnelles, et la seule chose qui apparut clairement à sa vanité et à sa corruption, ce fut le côté galant de l'aventure. Il eut la pensée que la siennoise, en lui accordant ses rendez-vous innocents, avait déjà mis le pied sur la douce pente au bas de laquelle est le péché, inévitable même pour les âmes les plus vigilantes. Il eut la pensée que peut-être un peu de jalousie pousserait Hélène à lui retomber entre les bras et qu'ainsi l'une des deux intrigues pourrait seconder l'autre. Il eut la pensée que, justement, c'était peut-être une crainte vague, un pressentiment jaloux qui avait pressé Marie de consentir si vite au rendez-vous prochain. Il se trouvait donc sur la voie d'une double conquête et il sourit en faisant réflexion que dans les deux entreprises, la difficulté se présentait sous le même aspect. Les deux femmes voulaient jouer près de lui le rôle de sœur et il s'agissait de les transformer en maîtresses. Il remarqua encore, non sans sourire, d'autres ressemblances entre les deux cas. Oh, cette voix ! Comme elles étaient étranges dans la voix de Marie, les intonations d'Hélène ! L'éclair d'une pensée folle lui traversa l'esprit. Cette voix pouvait être pour lui l'élément d'un travail d'imagination. En vertu de cette singulière affinité de timbre, il pouvait fondre les deux beautés en une seule et posséder ainsi une troisième beauté imaginaire, plus complexe, plus parfaite, plus vraie, parce qu'elle serait idéale. La troisième partie, exécutée avec un style impeccable, finissait parmi les applaudissements. André se leva et s'approcha d'Hélène. « Vous voici, Ugenta !» lui dit la princesse de Ferentino. « Où étiez-vous donc jusqu'à présent, au pays du tendre ?»« Et cet inconnu ?» fit Hélène sur un ton léger, en respirant un bouquet de violettes retiré de son manchon de martre. « C'est une grande amie de ma cousine, Donna Marie-Thérèse et Capdeville, femme du nouveau ministre du Guatemala, » répondit André sans se troubler. « Une belle créature, très fine. Elle était chez Françoise à Skifanoy en septembre. » « Et Françoise, interrompit Hélène, savez-vous quand elle doit revenir ?»« J'ai de ses nouvelles toutes fraîches de San Remo. Ferdinand va mieux, mais je crains qu'elle ne doive prolonger là-bas son séjour pendant un mois encore et peut-être davantage. »« Quel malheur !» Le final et du quatuor commençait très court. Hélène et la princesse avaient pris deux chaises dans le fond, contre la muraille, sous la glace pâle qui reflétait la salle mélancolique. Hélène écoutait, la tête penchée, en faisant couler entre ses doigts les extrémités d'un luisant boa de martre. Quand le concert fut fini, « Accompagnez-nous, » dit-elle à André. En montant dans sa voiture après la princesse, elle dit « Montez aussi, nous laisserons Ève au Palais Fiano. Ensuite, je vous déposerai où vous voudrez. Merci. » Il accepta. En arrivant au Corso, la voiture fut obligée de ralentir. La chaussée était encombrée d'une foule tumultueuse. De la place de Montecitorio et de la place Colonna venaient des clameurs qui se propageaient comme un bruit de houle, qui s'élevaient, tombaient, se relevaient, mêlés aux éclats d'éclairons. Dans le soir cendré et froid, l'émeute grandissait. L'horreur du massacre lointain faisait hurler la population, des hommes fendaient la presse en courant et en agitant des paquets de journaux. Sur les clameurs, distinctement, se détachait le nom de l'Afrique. André regarda par la portière. « Pour 400 brutes, mortes en brutes !» murmura-t-il en se retirant. « Que dites-vous là ?» s'écria la princesse de Ferentino. À l'angle du palais Chigi, le tumulte ressemblait à une bagarre. La voiture fut contrainte de s'arrêter. Hélène se pencha pour voir, et son visage, sortant de l'ombre, s'illuminant à la lueur du gaz et au reflet du crépuscule, apparut d'une blancheur presque funèbre, d'une blancheur glacée, un peu livide, qui réveilla chez André le souvenir d'une tête déjà vue. Il ne savait plus quand, il ne savait plus où, dans quelque musée, dans quelque chapelle. « Nous sommes arrivés, » dit la princesse, lorsque la voiture atteignit enfin le Palais Fiano. « Adieu, nous nous retrouverons ce soir chez la duchesse Angelieri. Adieu, Ugenta. Venez-vous demain déjeuner à la maison, vous y trouverez Hélène, Barbarella Vitti et mon cousin. »« À quelle heure ?
À 12:30.
C'est entendu. La princesse descendit. Le valet de pied attendait un ordre.
Où voulez-vous que je vous mène ?
Demanda Hélène à Sperelli, qui avait déjà pris auprès d'elle la place de la princesse.
Far, far away.
Allons, dites, chez vous ?
Et sans attendre la réponse,
à la Trinité des Monts, palais Zuccari.
Le valet de pied ferma la portière. La voiture repartit au trot et tourna par la rue Fratine, laissant en arrière la foule, les cris, les rumeurs.
Elle s'était retirée dans l'ombre, tout au fond, comme pour éviter un contact. Au passage, la clarté d'une vitrine traversa l'ombre, et il vit qu'Hélène, toute blanche, souriait d'un sourire attirant. Toujours souriant du même sourire, elle ôta de son cou, avec un geste agile, le long boa de martre, et elle le jeta autour du cou d'André en guise de lacet. On aurait dit que c'était un jeu. Mais de ce moelleux lacet, parfumé du même parfum qu'il avait senti dans le renard bleu, elle attira le jeune homme et lui offrit ses lèvres sans parler. Leurs deux bouches se rappelèrent les délices d'autrefois, ces unions terribles et suaves qui duraient jusqu'à l'angoisse et donnaient au cœur la sensation d'un fruit fondant et humide de rosée. Pour en prolonger la saveur, ils retenaient leur haleine. La voiture, quittant la rue des Deux Boucheries, monta par la rue du Triton, tourna dans la rue Sixtine, s'arrêta devant le palais Zuccari. Hélène repoussa vivement le jeune homme et lui dit d'une voix un peu voilée
« Descends, adieu !»«
Quand viendras-tu ?»«
Qui sait ?»
Le domestique ouvrit la portière. André descendit. La voiture tourna de nouveau pour reprendre la rue Sixtine. André, tout vibrant encore, les yeux encore noyés dans un nuage de torpeur, regardait si, derrière la glace, n'apparaîtrait pas le visage d'Hélène. Mais il ne vit rien. La voiture s'éloigna. En remontant l'escalier, il pensait « Enfin, voilà qu'elle se convertit !» Il lui restait dans la tête une vapeur d'ivresse. Il lui restait dans la bouche le goût du baiser. Il lui restait dans les pupilles l'éclair du sourire avec lequel Hélène lui avait jeté au cou cette sorte de serpent luisant et embaumé. Et Marie Ferrès. Sans nul doute, il devait à la siennoise cette volupté inattendue. Dans l'acte bizarre et capricieux d'Hélène, il y avait sûrement un peu de jalousie naissante. Peut-être, par crainte qu'il ne lui échappât, avait-elle voulu l'attacher, la lécher, l'allumer d'une soif nouvelle. M'aime-t-elle ? Ne m'aime-t-elle pas ? Et que lui importait de le savoir ? À quoi cela pouvait-il lui servir ? Désormais, l'enchantement était rompu. Jamais aucun miracle ne pourrait ressusciter la moindre parcelle du bonheur défunt. L'unique chose à faire, c'était de s'occuper de la chair qui était encore divine. Il se complut longuement à méditer sur cette aventure. Il goûta surtout la façon élégante et singulière dont Hélène avait donné de la saveur à sa fantaisie. Et l'image du boa évoqua l'image de la tresse de Marie, évoqua confusément tous les rêves d'amour qu'il avait rêvés sur cette ample chevelure virginale dont s'éprenaient jadis les élèves du couvent florentin. Il confondit de nouveau ces deux désirs. Il considéra fixement la double image. Il entrevit la troisième amante, l'idéal. Il avait l'esprit tourné à la réflexion. Tout en s'habillant pour le dîner, il se redisait « Hier, grande scène de passion, où peu s'en est fallu qu'il y ait eu des larmes répandues. Aujourd'hui, petite scène muette de sensualité. Et il me semblait hier que j'étais sincère dans mon émotion, comme tout à l'heure j'étais sincère dans ma sensation. De plus, aujourd'hui même, une heure avant le baiser d'Hélène, j'avais eu un moment d'envolée lyrique auprès de Marie. De tout cela, il ne subsiste pas trace. Demain, c'est sûr, je recommencerai. Je suis chimérique, incohérent, inconsistant, caméléonesque. Mes efforts vers l'unité, quels qu'ils fussent, resteraient toujours vains. Je n'ai plus qu'à me résigner. Ma loi est dans ce seul mot, nunc. Que la volonté de la loi s'accomplisse. » Il se mit à rire de lui-même. Et à partir de cette heure, il céda à sa nature sans aucune retenue. Sans aucune retenue, sans aucun égard, sans aucun remords, il appliqua toutes ses facultés à mettre en œuvre ses imaginations malsaines. Pour vaincre les résistances de Marie-Thérèse, il usa des plus subtils artifices, des ruses les plus raffinées, la trompant justement sur les choses de l'âme et sur la vie intime du cœur. Pour mener de front les deux aventures, pour conquérir la nouvelle maîtresse et pour reconquérir l'ancienne, pour tirer parti de chaque circonstance dans l'une et l'autre entreprise, il se jeta dans une infinité de contretemps, d'embarras, de situations bizarres. Et pour en sortir, il recourut à quantité de mensonges, de complications mesquines, de subterfuges dégradants, de basses supercheries. La bonté, la loyauté, la candeur de Marie ne le désarmaient pas. Il avait pris pour principe de son œuvre de séduction ce verset d'un psaume. « Asperges mi isopo et mundabor. Lavabisme et supernivem de albabor. » La pauvre créature croyait sauver une âme, racheter une intelligence, purifier par sa propre pureté un homme souillé. Elle gardait une foi profonde aux paroles inoubliables entendues dans le parc, le jour de l'épiphanie de l'amour, en face de la mer, sous les arbres fleuris. Et justement, c'était cette foi qui la réconfortait, qui la soutenait au milieu des luttes chrétiennes où sa conscience était déchirée, qui repoussait loin d'elle le soupçon, qui l'enivrait d'une sorte de mysticisme voluptueux où elle répandait les trésors de sa tendresse, le flot recueilli de ses langueurs, la fleur la plus douce de sa vie. Pour la première fois peut-être, André se trouvait en présence d'une vraie passion, d'un de ces grands sentiments féminins, si rares, qui illuminent d'un magnifique et terrible éclair le ciel gris et variable des amours humaines. Il ne s'en soucia point. Il se fit l'impitoyable bourreau de lui-même et de la pauvre créature.